RCF.
Plus que quelques jours avant l'arrivée des premiers skippers au Sable d'Olonne, alors que les leaders jouent des coudes pour prendre la première place, certains passent le célèbre et dernier cap, le Cap Horn. Alors c'est le cas d'Arnaud Boissière qui l'a passé hier.
Je suis super, 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 super content. Franchir le Cap Horn, c'est le top. Voilà.
Arnaud Boissière à l'instant. Alors, malheureusement, il n'est pas en direct avec nous. Il ne peut pas, puisqu'on n'a pas réussi à le joindre justement à cause de ce passage au Cap Horn qui est un petit peu agité. Mais je vous propose justement qu'on l'écoute, puisqu'il avait pu être contacté juste avant son passage. Il nous expliquait comment est-ce qu'il s'est préparé.
On se prépare. Il y a eu la chance d'avoir une zone de transition, moment de transition intérieure, donc on peut faire le tour du bateau. J'ai 3 voiles à l'extérieur dans les sacs. J'en ai mis 2 dans le cockpit. Pour éviter que si on doit manœuvrer vite fait, j'en ai qu'une que je dois mettre d'un bord à l'autre, les deux autres sont dans le cockpit. Puis j'ai retendu le guindon du J3, j'ai pris le RI 3, j'ai rangé tous mes RI pour traquer les poches d'eau dedans. Et puis à l'intérieur du bateau, je fais attention qu'il n'y ait rien qui traîne, quoi. C'est vraiment pas de porcelaine qui traîne d'un côté du bateau, que tout soit bien rangé, qu'il n'y ait rien qui...
Des conditions météo un peu particulières avec un vent qui souffle entre 50 et 60 nœuds, donc assez agité. S'il a décidé de passer plus au sud, il y en a un autre qui est passé juste à côté, c'est Fabrice Amedeo, et lui a passé le Cap Horn peu de temps juste avant Arnaud Boissière.
Et voilà les amis, le Cap Horn, c'est incroyable, voilà, l'océan nous a refusé ce Cap Horn toute la journée, on a souffert, 55 nœuds, et voilà, la belle récompense, les montagnes de Tasmanie, le Cap Horn, une lumière incroyable, j'en pleurerai tellement c'est beau, c'est incroyable.
Les conditions pour Fabrice Amedeo, qui étaient donc plutôt favorables au moment de son passage, et de leur côté, Alain Roura et Arnaud Boissière s'y préparaient avec un peu d'appréhension, mais aussi de l'excitation.
Ah bah c'est une sacrée étape dans la course, et je pense dans la vie d'un marin, donc c'est toujours quelque chose de très très important. Maintenant, on va pas avoir des conditions assez faciles là jusqu'au Horn, et surtout juste après, donc voilà, essayer de le passer en sécurité, on n'est pas là pour battre un record, je pense qu'on est une petite flotte à jouer ça en tant que marin, donc voilà, essayer d'arriver en sécurité là-bas, et puis c'était ça comme il se doit, et essayer de le voir surtout.
C'est un peu angoissant, ça fait 2-3 jours que c'est un peu stressant. Moi je trouve que ça fait plusieurs fois qu'on évite des gros coups de vent dans tout le sud, là, donc c'est assez particulier, t'es en course, mais tu ralentis, et du coup il y a un mélange d'appréhension, d'excitation, et voilà, bon, on est un peu suspendu au fichier météo.
Alain Roura et Arnaud Boissière, un instant, et sachez que les deux sont accompagnés à leur côté donc de Fabrice Amedeo, qui est passé juste avant Arnaud au Cap Horn, mais également de Rich Wilson, qui vient également de passer le Cap Horn. Et tous les quatre, eh bien, ça fait une sacrée équipe qui a tendance à pas mal discuter. Ils sont ensemble depuis un bout de temps, entre la 11e et la 14e place. Arnaud Boissière nous en parle.
Bah, avec Fabrice, on s'écrit pas mal. C'est mon nouvel ami des Mers du Sud. Puis avec Alan, on s'est pas mal écrit aussi. Là, il me disait tout à l'heure, Alan qui est tombé dans la pétole, donc c'est un peu le piège de descendre trop sud, de se retrouver à se faire sentir par la pétole. Donc, on s'écrit, c'est un peu sympa, on se remonte le moral, on dit qu'on est tous dans la même dans le même bateau, quoi. C'est sympa, ils sont en contact tous les quatre. Avec Fabrice, on parle de la course en général, on parle des bateaux, des bateaux qui sont en vente, des bateaux qui s'achètent, qui se vendent, enfin, on fait un peu l'argus de l'Imoca, quoi.
Un peu plus haut dans la course, ils se battent pour la 5e et 6e place. Ils sont à touche-touche, c'est Yann Eliès et Jean Le Cam. Et ils nous parlent justement de deux choses. Tout d'abord, le record de vitesse qui a été battu par Alex Thompson, le record de vitesse en 24 heures. C'est Yann Eliès qui se dit d'ailleurs déçu que le record n'ait pas été battu plus vite.
C'est une belle performance de battre le record de François. Mais bon, je suis un peu comme François, je suis un peu déçu que ce
ce record soit battu que maintenant et que de 2000 seulement, alors que ces foilers montrent des performances incroyables. Ça met en relief la performance de François il y a 4 ans, qui avec un bateau à dérive classique avait réussi à maintenir cette moyenne incroyable de 22 nœuds. Je pense que peut-être que les conditions n'ont pas été réunies cette fois-ci pour que les foilers battent ce record, ou peut-être sont-ils un peu sur la retenue. Mais en tout cas, toujours est-il que je pensais que ce record serait battu beaucoup plus tôt avec des bateaux qui disposent d'un impadis quand même redoutable.
Yann Eliès, qui tout comme Jean Lecam, reste tout de même marqué par la performance de ses foilers.
Les deux premiers, là, ils se baladaient à 20 nœuds tout le temps. On se disait, mais quand est-ce qu'ils vont s'arrêter de marcher à 20 nœuds? Ils étaient à 20 nœuds tout le temps. Et là, la génération future, si tu veux, je pense qu'on va passer les nouveaux bateaux qui vont être vraiment, vraiment conçus avec des foils. Ils vont faire des moyennes à plus de 22 nœuds sur. Donc ça veut dire que les trains de dépression, si tu veux, ils vont quasiment tutoyer la vitesse de déplacement des dépressions dans le sud. Et là c'est exponentiel. Hein.
Les deux skippers, donc Yann Eliès et Jean Lecam, qui sont toujours à touche-touche, qui passent l'un devant l'autre régulièrement, en alternance, et qui se retrouvent tous les deux confrontés à une faune marine un petit peu envahissante, les sargasses. Et écoutez Jean Lecam qui nous en parle avec beaucoup d'humour.
Les sargasses, elles commencent à bien faire. Les sargasses, ça m'agace. Parce que là, elles se mettent dans les safrans, si tu veux, et puis ça te fait des gerbes de flotte. C'est assez c'est agaçant, les sargasses.
Les sargasses, qu'est-ce que c'est? Ce sont des algues, justement. Yann Eliès nous en parle un petit peu plus et nous explique en quoi c'est dérangeant pour la course.
Le croisiériste moyen ne ferait pas attention à ces algues, mais nous, en tant que cigaristes, ça nous énerve parce que ça s'accroche partout, dans le safran, dans la dérive. Alors ça a même tendance à faire caviter le safran, c'est-à-dire que le profil du safran se retrouve presque un peu abîmé par ces algues et du coup, le bateau devient incontrôlable dès qu'on charge un petit peu et dès qu'on met un peu de toile. On est obligé de temps en temps de faire un petit arrêt, de relever le safran et puis d'évacuer ces algues qui sont un peu agaçantes. Je pensais que la période où il y aurait ces algues-là serait moins importante, mais visiblement la zone touchée par l'invasion de ces algues est de plus en plus importante.
Aujourd'hui, il ne reste plus que 2 jours avant l'arrivée des premiers qui, de Alex ou de Armel, arrivera à prendre la tête pour ces derniers 1000 qui les séparent des Sables d'Olonne. Eh bien, affaire à suivre, bien entendu, sur l'antenne de RCF Vendée.